Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi.
Ça fait plaisir. On peut vraiment de nouveau avoir une visite culturelle normale. On peut vraiment pleinement vivre la visite.
Plus de masques, mais un pass, c'est la nouveauté du jour, un pass sanitaire obligatoire dans les musées, cinémas, théâtres, tous les lieux recevant du public au-delà de 50 personnes. Maximilien Carlier est au musée du Louvre à Lens. Nous irons dans les Pyrénées-Orientales où le taux de circulation du virus a littéralement explosé. Plusieurs départements sont concernés, le gouvernement parle de quatrième vague et a convoqué ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire. Retour sur le scandale Pegasus, le Maroc qui aurait écouté le président français mais également plusieurs ministres. Et maintenant, quelles peuvent être les réponses diplomatiques? L'invité d'Europe Midi, l'un des ministres écoutés, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il est donc obligatoire depuis ce matin ce fameux pass sanitaire. Il est exigé à l'entrée des lieux recevant du public dès que la jauge excède 50%. 50 personnes, pardonnez-moi. Direction le musée du Louvre de Lens. Maximilien Carlier, vous êtes sur place avec le pass sanitaire donc. Il y a moins de masques sur les visages.
Oui, tout à fait Thierry. Ici dans la galerie du temps, les masques dépassent des poches des visiteurs et on voit des sourires, notamment ceux de Josie, Michel et Cédric.
Ça fait plaisir. On peut vraiment de nouveau avoir une visite culturelle normale sans être gêné au niveau respiration, au niveau, on peut vraiment pleinement vivre la visite.
On peut se parler, on a quand même une liberté totale en fait.
Ça vaut le coup d'être vacciné.
Ça vaut le coup d'être vacciné.
Alors bien sûr, tout le monde ne tombe pas le masque. Environ 3/4 des personnes le gardent. Question d'habitude pour Hervé.
Quand je travaille, je l'ai toute la journée. Donc moi, ça ne me coûte rien. Franchement, à l'intérieur, on joue la sécurité.
La sécurité, justement. À l'entrée, les portiques. La nouveauté, c'est le pass sanitaire. Gauthier Verbeek, en charge de la médiation au Louvre-Lens.
On s'est demandé comment réagirait le public face à la mise en place du pass sanitaire. Et effectivement, en tout cas pour l'instant et dans ces premières heures, on se rend compte que le public est là tout de même. Donc ça nous fait très plaisir.
Pas de baisse en termes de fréquentation. Environ 150 visiteurs ce matin et pour l'instant, aucun refus.
Maximilien Carlier, correspondant Europe 1 dans les Hauts-de-France. Maud Descamps du service économie. On fait le point avec vous concrètement. Où dois-je présenter mon pass à partir d'aujourd'hui?
Eh bien, dans tous les lieux de culture et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes. Autrement dit, au musée, au cinéma, dans votre salle de sport, même chose au théâtre ou encore dans les festivals comme celui d'Avignon, par exemple.
Et Maud, une fois à l'intérieur, on a le droit d'enlever le masque. Hein.
Normalement, oui. Dans les lieux soumis au pass sanitaire, l'obligation de porter le masque n'existe plus. Mais les préfets ont la liberté d'en décider autrement et de demander aux usagers de garder le masque, même s'ils ont présenté leur pass sanitaire. Cela dépendra en fait de la situation épidémique dans le département concerné, puis aussi de la capacité du lieu qui accueille le public à contrôler de manière efficace le pass sanitaire de chacun. Sachez aussi que l'exploitant ou l'organisateur d'un événement a également la possibilité d'exiger le port du masque. En revanche, les salariés qui travaillent dans les endroits qui sont soumis au pass sanitaire, eux devront garder le masque pour l'instant.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Le gouvernement parle clairement aujourd'hui de quatrième vague avec 18 000 contaminations en plus hier contre moins de 7 000 la semaine dernière. Le masque en extérieur fait son retour dans les zones touristiques notamment où l'épidémie repart. Dans les Pyrénées-Orientales, département qui reste le plus touché, la situation est toujours préoccupante, Henri de la Guérie.
Effectivement, et les chiffres sont vertigineux. 2000 cas sont détectés chaque jour dans le département. Le taux d'incidence s'élève à 373 cas pour 100 000 habitants. C'est 4 fois plus que dans le reste de la France. Ce n'est plus une courbe qui grimpe, mais bien un mur, explique le docteur Sylvain Pavageot. Il dirige l'un des centres de vaccination à Perpignan.
Sur les chiffres chaque jour, c'est assez impressionnant. L'augmentée de l'incidence, c'est un vrai mur qu'on n'avait pas connu. Nos collègues hospitaliers se préparent à voir arriver dans quelques jours ces patients, même sans facteur de risque, mais c'est le nombre qui fait qu'il y aura des hospitalisations quoi qu'il arrive.
Ces hospitalisations devraient grimper donc d'ici une dizaine de jours. Les moins de 30 ans sont 4 fois plus touchés ici que le reste de la population, même si la courbe remonte aussi chez les plus de 65 ans. Mais bientôt, les Pyrénées-Orientales ne seront plus une exception. Le virus progresse au nord et à l'ouest du département.
Malheureusement, nos collègues des départements limitrophes et bientôt toute l'Occitanie au-delà auront des chiffres qui risquent de se rapprocher des nôtres, malheureusement. Hein.
Voilà Thierry, mais pour trouver un petit signe d'espoir, il faut regarder vers le sud. De l'autre côté de la frontière, la Catalogne voisine a une dizaine de jours d'avance sur le sud de la France. Et là-bas, le pic de la contagion a été atteint. L'épidémie commence tout juste à ralentir.
Merci Henri de la Guérie à Perpignan pour Europe 1. C'est dans ce contexte et avant une prise de parole du Premier ministre à 13h que s'est tenu ce matin à l'Élysée un nouveau conseil de défense sanitaire et l'interdiant. Qu'en est-il ressorti ?
Eh bien, ce que l'on sait, c'est que trois sujets étaient à l'ordre du jour. D'abord, la campagne de vaccination. Ensuite, le déploiement du pass sanitaire qui entre en vigueur aujourd'hui dans les cinémas, les musées. Mais aussi, la question de restrictions supplémentaires. Le gouvernement veut tout faire pour anticiper et éviter une nouvelle flambée de l'épidémie. On regarde avec pragmatisme les chiffres. On surveille attentivement les courbes, la pression sur les hôpitaux. Et on voit comment on proportionne, martèle-t-on dans l'entourage du président. Avec l'explosion des cas ces derniers jours, l'exécutif pourra donc recourir à plusieurs outils, notamment à l'échelle locale. Sur la table, la fermeture anticipée des établissements, bars, restaurants, le retour du port du masque obligatoire en extérieur, voire la réinstauration d'un couvre-feu, comme cela a été décidé dans les Pyrénées-Orientales. Bref, rien n'est exclu, d'autant que le président avait prévenu il y a 10 jours que de nouvelles restrictions pouvaient être envisagées dans les territoires où l'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Ces arbitrages, le Premier ministre devrait les annoncer d'ici une demi-heure, accompagné très certainement de ce message martelé au plus haut sommet de l'État. Notre arme contre le virus, c'est la vaccination.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Et puis parallèlement, les débats se poursuivent, hein, vous le savez, à l'Assemblée nationale autour du projet de loi étendant le pass sanitaire. Hier, la commission des lois a voté en faveur du report à la fin septembre du pass sanitaire pour les 12-17 ans.
Thierry de Giral.
12h37, les suites des révélations du scandale Pegasus, logiciel qui a permis d'écouter plusieurs personnalités, dont Emmanuel Macron et plusieurs ministres. Ce matin, sur Europe 1, Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement intérieur français, relativisait le fait que le Maroc soit à l'origine de cette affaire. Il estime que le Maroc est peut-être accusé à tort.
Tout est possible. Et le silence de l'Élysée est en conformité avec l'attente des résultats, comme l'a dit le Premier ministre, des orientations d'enquête.
Quelle réponse diplomatique, une fois qu'on aura ces résultats, attendez-vous ?
Oh, ben comme d'habitude.
C'est-à-dire des protestations et puis pas grand-chose ?
Quand Wikileaks révèle que les présidents de la République ont été écoutés par la NSA, ça a été un silence diplomatique très profond. Mais
pourquoi ? Parce qu'on fait la même chose ?
Possible. Mais il est évident qu'entre quatre yeux, ensuite, les présidents se parlent.
Bernard Squarcini, l'invité de la matinale de Théo Manval ce matin sur Europe 1. Alors justement, Jean-Sébastien Soldaini, quelles peuvent être les conséquences diplomatiques de cette nouvelle affaire ?
Eh bien, si vous regardez les exemples récents, même type d'espionnage sur des chefs d'État, pas de vraies conséquences. Entre 2006 et 2012, les États-Unis ont écouté trois présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les antennes qui servaient à ces écoutes étaient posées à deux pas de la place de la Concorde et du palais de l'Élysée. Mais au-delà de la posture d'indignation sur le moment, il n'y a pas eu de brouille à long terme. Autre exemple, les services britanniques ont écouté toutes les délégations lors d'un G20 en 2009 et les G20 continuent, les chefs d'État se tapent toujours dans la main. Plus récemment, nous avons découvert que la NSA a écouté Angela Merkel. La chancelière était ravie d'être reçue ces derniers jours à la Maison-Blanche. Alors c'est vrai, c'est difficile de montrer les muscles face à Washington ou face aux Anglais, il y a trop d'enjeux en commun. Le ton sera peut-être un peu plus sévère vis-à-vis du Maroc, mais sans aucun doute, les relations vont très vite se normaliser.
Jean-Sébastien Soldaini, grand reporter de la rédaction d'Europe 1. Retenez en bref que les élections municipales à Cholet ont été annulées par le Conseil d'État et que l'UNESCO retire le port de Liverpool de la liste du patrimoine mondial. Les images sont impressionnantes. Elles nous viennent de Chine, des passagers bloqués, piégés dans le métro de Zhangzhou, des barrages qui ont cédé, des pluies torrentielles et inhabituelles qui s'abattent sur le pays. Bilan provisoire, 18 morts. Sébastien Lebelzig, vous êtes notre correspondant sur place. L'armée a été appelée en renfort.
Oui, ce sont plus de 3000 militaires au total qui ont été déployés sur zone pour assurer l'évacuation d'au moins 200 000 personnes. D'autres renforts sont attendus dans la journée car la situation sur place dans cette province du Henan, qui compte 100 millions d'habitants, reste particulièrement inquiétante, notamment le risque de voir le barrage sur le fleuve jaune céder sous la pression des eaux. Une brèche de 20 mètres a été détectée, c'est donc la panique. Et dans la ville de Jiangzhou, la préfecture de cette province, la pluie continue de tomber, les rues sont inondées, l'électricité toujours coupée. Un hôpital de 7000 lits notamment est privé d'électricité. C'est l'équivalent de 6 mois de précipitation qui s'est abattue sur la ville en à peine une heure. Les images du métro inondé ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit des passagers coincés dans les rames avec de l'eau jusqu'aux épaules. On voit des corps aussi allongés à même le sol, le visage recouvert d'un drap. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Le président chinois Xi Jinping parle d'une situation très difficile pour les sauveteurs sur place.
Sébastien Lebelzik en Chine pour Europe 1. On termine avec les JO de Tokyo, J-2 avant la cérémonie d'ouverture. Mais Julien Froment, la première épreuve sportive a commencé avec le softball à Fukushima.
Exactement, c'est la version féminine du baseball. Donc vous l'avez dit, à Fukushima, un lieu hautement symbolique puisque la région avait été ravagée par un accident nucléaire il y a déjà 10 ans. Eh bien, les Japonais l'ont facilement emporté face aux Australiennes, une victoire dans un silence pesant, hélas, puisqu'on le rappelle, toutes les épreuves se déroulent à huis clos. C'est également le cas du tournoi de football qui se dispute dans des tribunes vides. Et première sensation de ces Jeux, puisque la Suède a battu les États-Unis pourtant 4 fois championne olympique. Un peu plus tôt dans la matinée, les Britanniques ont disposé des Chiliennes 2-0 et puis les Brésiliennes ont atomisé les Chinoises 5-0.
Et puis Julien, pour certains athlètes, les Jeux en revanche ne vont jamais débuter.
Oui, hélas, deux athlètes n'auront pas le bonheur d'y participer malgré leur présence à Tokyo. Une taekwondoïste chilienne et une skateuse néerlandaise ont été contrôlées positives au Covid-19. Elles doivent observer une période d'isolement de 10 jours. Résultat, elles sont contraintes de déclarer forfait. Depuis le 1er juillet, ce sont 79 personnes, dont 8 athlètes, qui ont été testées positives sur plus de 20 000 personnes contrôlées.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Il nous reste à présent à voir le temps, c'est important en ce moment. Marlène Duré, c'est du beau temps.
Oui, Thierry, bonjour. Comme ces derniers jours, la grisaille matinale en Aquitaine et dans le Midi-Pyrénées va continuer à se morceler. On va conserver quelques stratus côtiers l'après-midi. Les stratus, vous savez, ce sont ces nuages bas qui donnent cette impression assez grise. Donc le ciel peut rester gris par endroits, très localement sur le littoral aquitain. Sur les Pyrénées, l'ensemble du relief montagneux en général, on prévoit une petite averse cet après-midi. Averse potentiellement orageuse dans le sud des Alpes et la montagne Corse. Ailleurs, le temps, vous le disiez, va rester très ensoleillé avec une cumulification plutôt discrète pouvant donner quelques gouttes. Alors, des gros cumulus, vous savez, de beau temps. Et quelques gouttes sont possibles vers le nord Pas-de-Calais, notamment du côté de l'Artois. Et on s'arrêtera là, au niveau de la nébulosité. Les températures prévues au meilleur de la journée, 25 à Biarritz, 26 au Havre, 27 degrés à Cherbourg, à Lille, à Strasbourg également, 27 degrés du côté de Nice. Nous aurons 28 à Clermont-Ferrand, 29 à Dijon, 30 à Paris et à Bourges, 31 à Brest. Ça nous fera quand même 3 jours consécutifs à plus de 30 degrés à Brest. On n'a pas vu ça depuis 1990. C'était au début août, de mémoire.
Mémoire.
32 dans le Limousin et en Haute-Corse, 34 à Toulouse et Montpellier, 36 à Nîmes. Donc demain, dernière journée de beau temps avant la dégradation orageuse.
Week-end mauvais.
Elle est confirmée, cette dégradation. Oui. Samedi déjà, on a les orages. D'accord. Qui vont traverser le pays. Et puis dimanche, ce sera ce qu'on appelle une traîne, donc un ciel assez changeant, variable, entre nuages et éclaircies, avec parfois quelques averses et surtout les températures qui vont baisser forcément après le passage des orages.
Allez, revenez quand même dans le journal de 13h. Tout à l'heure, merci.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans un instant, mon invité, il est là en studio, le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie. Il fait partie des ministres qui ont été écoutés par le Maroc via ce fameux logiciel israélien Pegasus. Il va aussi nous parler de cette campagne qu'il lance contre l'abandon des animaux de compagnie. A tout de suite sur Europe.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral.
Une heure moins le quart, notre invité dans Europe Midi, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Merci d'être en direct en studio avec nous. Vous faites partie des ministres dont le téléphone a potentiellement été ciblé par le logiciel espion de la société israélienne NSO pour le compte du royaume du Maroc. Toutes vos données ont potentiellement été aspirées, votre micro activé à distance. Comment vous réagissez ?
Bien, je crois que si les faits sont avérés, ils sont d'une extrême gravité. Comme l'a dit le Premier ministre hier, il était interrogé à l'Assemblée nationale sur le sujet. Il a indiqué qu'avaient été ordonnées des investigations pour établir la vérité sur ce qui s'est passé, pouvoir savoir exactement et puis pouvoir, en toute transparence, le faire savoir. Mais je crois qu'une nouvelle fois, si les faits avérés Il relève d'une très grande gravité.
Lorsque hier soir vous avez appris que vous étiez l'un des ministres potentiellement écoutés, vous êtes dit que finalement, quel dossier pourrait intéresser des puissances étrangères ?
Je ne vais pas rentrer dans ce type de détails, je pense que vous comprendrez bien. Et puis surtout, je pense qu'au moment où je vous parle, l'important pour nous est d'établir si, oui ou non, les faits sont avérés et quelle est la nature exacte de ces faits qui ont été relayés. Ça touche des politiques, ça touche aussi des journalistes et je crois que ces derniers, des avocats, beaucoup de personnes, et cela montre... potentiellement, encore une fois, la gravité de ce qui se serait passé.
Racontez-nous les coulisses, Julien Normandie. Est-ce que vous avez été en contact avec les services techniques des renseignements pour effectuer des vérifications sur votre téléphone depuis hier soir ?
Je ne vais pas, si vous me le permettez, aujourd'hui, on a lancé les investigations à la demande du Premier ministre. Et donc, je n'ai pas raconté ni des coulisses, ni des discussions, et je crois que tout le monde peut le comprendre. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que ces investigations soient menées. Elles ont été ordonnées par le Premier ministre. Et donc, on va attendre qu'elles aillent à leur terme.
Mais il y a néanmoins des questions qui se posent. On comprend, il y a peu de commentaires, bien sûr, au sommet de l'État. On comprend que la situation est complexe. Le Maroc est un pays ami. Qu'est-ce qu'on peut laisser faire néanmoins ? Et comment réagir ?
Et vos questions, elles sont compliquées parce que, encore une fois, les investigations, elles sont en cours. Il y a eu les révélations faites par vos confrères, avec des cellules d'investigation. Et je crois que le rôle d'un gouvernement, au-delà de ces révélations qui ont été faites, c'est de mener ces investigations qui sont aujourd'hui nécessaires. Et donc, à ces questions que vous posez, qui sont tout à fait légitimes, il faut d'abord que les investigations puissent être menées. De savoir exactement de quoi il relève, et à ce moment-là, d'en tirer les conséquences.
Alors, je me permets de continuer, il y a des questions qui se posent encore. Il y a des téléphones sécurisés qui existent, notamment l'appareil Théorème de l'entreprise Thales. Pourquoi finalement les ministres, pourquoi Emmanuel Macron n'utilise pas ce type de téléphone ? Est-ce qu'il est compliqué, lorsqu'on devient ministre, finalement, de changer de vie, de prendre des téléphones plus sécurisés ? Ou est-ce qu'on reste avec son ancien numéro ? Emmanuel Macron a gardé longtemps son ancien numéro.
Mais vous avez plusieurs types de conversations. Mmh. Et vous avez plusieurs types de communications. Vous avez des communications qui sont totalement sécurisées. Ouais. Et d'autres qui relèvent de votre sphère privée. Et donc, ces protocoles et ces utilisations que nous faisons au sein du gouvernement comme d'autres secteurs le font.
Dernière question sur ce dossier, Julien de Normandie. Ça pose bien sûr des questions à l'approche de la présidentielle. Est-ce qu'il faut craindre des risques d'ingérence extérieure qui pourraient peser sur la campagne ?
C'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui, évidemment, doit nous interpeller. On a vu ce qui se serait passé aux États-Unis d'Amérique. Mmh. On a vu ce que certaines puissances pouvaient faire. On voit aussi... que les campagnes électorales aujourd'hui sont de plus en plus influencées par des débats d'idées qui sont portés ici ou là sur des réseaux sociaux ou autres. Et donc, par définition, une campagne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle ne peut pas subir des ingérences des uns et des autres. Mais c'est un autre sujet que celui que vous abordiez jusqu'à présent, mais c'est un sujet évidemment qu'on suit avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il en va de la démocratie, du respect de notre démocratie, de notre attachement à la démocratie.
Julien Normandie, ministre de l'Agriculture. On revient maintenant à votre actualité ministérielle. Vous lancez une grande campagne contre l'abandon des animaux de compagnie. Cela concerne 100 000 chiens et chats chaque année, dont 60 000 en cette période estivale. Et cela pourrait être plus cette année à cause des adoptions lors du confinement, justement.
Oui, c'est quelque chose qui est très peu su dans notre pays. Mais malheureusement, la France est championne du monde, ou presque, de l'abandon des animaux de compagnie, des chiens, des chats. On l'explique par plusieurs facteurs, notamment par ce qu'on appelle les achats d'impulsion. C'est-à-dire qu'on a tous en tête, Moi, j'ai 4 enfants, j'ai en tête les moments où vous passez devant une litière, où vous avez des petits chatons, ou devant des petits chiots, et puis vous avez l'un de vos enfants qui vous dit « ce serait quand même vraiment très sympa d'en ramener un à la maison ». Et parfois, sous l'impulsion, vous procédez à cet achat ou à cette adoption, mais vous n'avez pas en tête tout ce que cela incombe d'être propriétaire, d'avoir la responsabilité d'un animal de compagnie. Mmh. Cela incombe en termes de soins, en termes de temps disponible, en termes de frais financiers. Et donc ensuite, avec les événements de votre vie, vous vous retrouvez dans l'incapacité de gérer comme il se doit l'animal de compagnie. Mmh. Et à ce moment-là, vous l'abandonnez. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, on estime à plus de 100 000 le nombre d'abandons. Les associations disent que c'est encore plus. Et ce qui est vrai, c'est que ces abandons, on les voit beaucoup pendant l'été. Notamment, et c'est très intéressant d'en discuter avec eux, les sociétés d'autoroutes sont des témoins d'abandons d'animaux de compagnie sur les aires d'autoroute. Et donc, on lance aujourd'hui un grand plan de sensibilisation pour lutter contre ces abandons, en rappelant d'abord que l'abandon est probablement le premier acte de maltraitance. Il est d'ailleurs très fortement puni par la loi, très fortement. Et puis en disant aussi, et de manière très forte, qu'un animal de compagnie, ça n'est pas un jouet, pas un consommable. C'est un être dont vous devez prendre soin dès lors que vous en avez la responsabilité. Et donc, cette campagne de communication, on la déploie sur les réseaux sociaux, sur les aires d'autoroute, à votre antenne grâce à votre invitation.
Et ça passe par quelle mesure,
monsieur le ministre ? C'est très important. Eh bien, ça passe par, d'abord, des initiatives, des dynamiques concrètes pour informer, sensibiliser, parce qu'encore une fois, c'est très peu connu. Deuxièmement, ça passe par des mesures législatives que nous prenons.
Lesquelles ?
Qui, par exemple, diront que lorsque demain, vous allez devoir, vous allez souhaiter acheter ou adopter un animal de compagnie, vous ne pourrez plus le faire sans signer ce qu'on appelle un certificat de connaissance. C'est-à-dire, vous ne pourrez plus le faire sans avoir pris conscience de tout ce toutes les responsabilités qui incombent. Ça passe aussi par une bien meilleure régulation des ventes sur Internet ou dans les animaleries. Songez que sur Internet, parfois, on se rend compte que les animaux de compagnie sont vendus dans les catégories jouets. Qui peut comprendre qu'un chien, un chat soit vendu dans les, ou proposé à l'adoption dans les catégories jouets. Et donc, cette loi, elle a déjà été votée à l'Assemblée nationale et elle va passer au Sénat dans les toutes prochaines semaines, fin septembre, et je crois que c'est une très bonne chose.
Julien Normandie, vous voulez également alourdir les peines encourues en cas de maltraitance animale ou d'abandon ?
Exactement, ce même projet de loi que j'évoquais va alourdir les peines. Je crois que c'est très important parce que le fait de montrer que l'abandon est une maltraitance, et probablement la première des maltraitances, et puni par la loi, fait aussi prendre conscience de la gravité de son geste. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire une fois qu'on a sensibilisé et une fois qu'on a potentiellement sanctionné, il y a surtout, et je voudrais vraiment leur rendre hommage, tous les refuges, toutes les associations. J'ai été ce matin dans les Yvelines auprès de l'une d'entre elles qui accueille des chats abandonnés. Elles font un boulot formidable et on a décidé de les soutenir fortement.
Les soutenir, ça veut dire quoi ? Mieux les accompagner, les aider, être présent auprès de ces refuges ?
Ça veut dire d'abord investir. Parce que c'est souvent des associations qui vivent des donations des uns et des autres. Et c'est vrai que l'État n'était pas suffisamment, je trouve, à leur côté. Et donc j'ai décidé, dans le cadre du plan de relance, d'investir à leur côté plus de 15 millions d'euros pour rénover, agrandir, mieux accompagner ces refuges dans l'accueil des animaux de compagnie qu'ils reçoivent. Et puis deuxièmement, c'est aussi les accompagner dans... Par exemple, quelque chose de très important qui sont les campagnes de stérilisation. Mmh. On sait aujourd'hui que c'est, par exemple, un sujet d'ampleur pour les chats errants ou les chats abandonnés que de pouvoir les stériliser. Et ça coûte parfois très cher. Mmh. Les associations, les collectivités locales sont pleinement engagées dessus. Eh bien, c'est normal que l'État soit à leur côté. Donc, on va en tout investir 20 millions d'euros aux côtés de ces acteurs pour pouvoir les accompagner dans l'accueil et dans les soins donnés à ces animaux pour que demain, on puisse plus facilement accueillir lorsqu'on retrouve des animaux abandonnés. Évidemment, l'objectif principal reste de lutter contre l'abandon, d'agir à la source. Et l'appel que je lance ce midi à votre micro, c'est vraiment cette prise de conscience. Un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un consommable. Et surtout, il ne faut pas l'acheter ou l'adopter sous quelque forme que ce soit d'impulsion. Il faut le faire en conscience.
Campagne que vous lancez donc aujourd'hui, et merci d'être venu sur Europe 1 pour en parler très rapidement. Un mot de nos agriculteurs, comment vont-ils? Il y a eu les inondations importantes dans l'est de la France, il y a eu les intempéries il y a quelques semaines qui ont ravagé certains vergers. Comment vont-ils? Quel est l'état de nos agriculteurs et de l'agriculture en France?
Mais déjà, les Français ont beaucoup soutenu et soutiennent beaucoup nos agriculteurs dans la période de la Covid. Ouais. Et on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Les Français ont une image de plus en plus bienveillante et meilleure de notre agriculture. Et je crois que c'est très important parce que notre agriculture, elle est fondée sur la qualité des produits. Et moi, mon principal combat, par exemple dans les cantines scolaires, c'est d'y mettre nos produits frais, nos produits locaux, nos produits de saison, parce que ce sont les produits de qualité. Ça n'a rien à voir, je le pense profondément, de donner accès à un poulet français à nos enfants dans les cantines qu'à un poulet ukrainien ou brésilien qui ne sont pas élevés dans les mêmes conditions. Et puis après, et vous l'avez dit, et vous avez raison, l'année 2021 a été une année où les effets du changement climatique ont été incroyablement violents pour notre agriculture. Ça a d'abord été le gel, des centaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés par le gel. L'État était aux côtés des agriculteurs avec plus d'un milliard d'euros. Et c'est maintenant les inondations. J'étais hier aux côtés des agriculteurs dans l'Aisne, par exemple, avec des images très impressionnantes. Ouais. Et donc là aussi, l'État accompagnera le monde agricole. Mais au-delà de l'État, je crois que c'est tous les Français, parce qu'une partie de notre identité, c'est cette agriculture, cette alimentation, cette gastronomie française qui est, encore une fois, le signe de qualité et je leur rends hommage.
Consommer français pour les aider, nos agriculteurs. Merci à vous. Julien Normandie, ministre de l'Agriculture. Grand merci.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Dans un instant, votre journal de 13h, puis La France bouge. Bel après-midi à tous. On se retrouve ce soir à 18h. Merci.